Ce matin, j'aimerais aborder le thème suivant avec vous. Redécouvrir l'amour de Dieu au travers de nos échecs. Découvrir ou redécouvrir l'amour de Dieu au travers de nos échecs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire à un certain moment de votre vie qu'il n'y a plus d'espoir à cause d'un échec que nous avons rencontré? Cela vous est-il déjà arrivé de vous dire à quoi bon continuer cette aventure avec Dieu? Ou peut-être qui s'est posé cette question? Est-ce que Dieu est encore là quand on rencontre un échec cuisant dans sa vie? Quand la vie prend une tournure différente de celle qu'on avait pensée, on peut même se poser la question, est-ce que Dieu nous aime encore? Une question que l'on peut se poser. Quand j'étais jeune chrétien, il y a de cela quelques années, il y avait un groupe chrétien qui s'appelait le Trio Rofidal. Et ils avaient un chant que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, qui disait ceci, ça remonte à ça. Le chant disait ceci, « Vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie? Vers qui se tourner quand la mort semble plus douce que la vie ?» Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant. Et j'étais tout jeune chrétien, j'écoutais ce chant, je me suis dit, « Moi, qu'est-ce que ça a l'air sombre, ce chant !» Je ne comprenais pas les paroles de ce chant. Mais pour cause, j'étais tout jeune chrétien, naïf, enthousiaste, et je ne comprenais pas. Puis, en lisant la parole de Dieu, et en lisant l'histoire des hommes de Dieu, eh bien, j'ai découvert que c'est vrai. Je veux dire, tous les hommes de Dieu sont passés par des moments très difficiles dans leur vie, par des échecs. Alors, il y a une chose que l'on peut affirmer sans se tromper, c'est que nous connaissons, et nous connaîtrons tous à un certain moment des échecs dans notre vie. Ce n'est pas une question de probabilité, c'est juste une question de temps. Tôt ou tard, nous allons connaître ces choses. Et cela même si il nous arrive d'entendre des sermons dans des églises ou sur Internet, des sermons qui nous font croire que parce que si nous suivons Dieu, si nous sommes fidèles à Dieu, alors tout ira comme sur des roulettes. Vous avez déjà, je pense, entendu des sermons comme ça qui nous font croire que si on suit Dieu, tout va aller comme sur des roulettes. Sauf que je pense qu'on oublie de nous dire par manque d'honnêteté que les roulettes, quelquefois, elles vont se bloquer. Qui s'est déjà retrouvé dans un supermarché avec un caddie, avec une roulette qui va de travers, qui est bloquée? Oh, on pousse et c'est difficile. Et plus on met dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est encore plus difficile. On va aller à droite, le caddie va à gauche. Et quelquefois, notre vie ressemble à cela. Je veux dire, on a l'impression que ça ne prend plus la direction par laquelle on voulait aller. Cette vision de la vie chrétienne sans échec ne correspond pas du tout à ce que la Bible veut nous communiquer. Et je dirais même qu'il y a plus un grand danger de croire que la vie sans échec, c'est la vie chrétienne. Parce que quand l'échec arrive, et comme je disais, tôt ou tard, il va arriver, on prend un coup sur la tête et certains ne s'en relèvent pas. Et ça peut être étonnant que quelquefois, je dirais, des gens qui rentrent dans le parcours de la vie chrétienne et puis, boum, à la première déception, premier échec, ils ne sont plus là. Peut-être on leur a annoncé quelque part un évangile qui n'était pas tout à fait correct. L'évangile est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle vie. On connaît la joie avec Dieu, Dieu nous fait des cadeaux, mais cela ne veut pas dire pour autant que la vie sera facile. Mais ça, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont déjà compris. Alors, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est bon de faire une distinction entre deux catégories d'échecs. Deux catégories d'échecs. Il y a les échecs qui sont dus à la conséquence du péché dans nos vies, et puis il y a les échecs qui ne sont pas du tout liés à un péché dans nos vies. Et je pense, je vais vous expliquer, vous allez voir. Échecs liés... Ah, je peux le voir ici, ça, c'est... Ça. Échecs liés... Ah ben ouais, c'est pas très clair. Échecs qui sont liés au péché. À cause du fait que nous avons succombé à une tentation. On peut connaître un échec dans sa vie à cause du fait d'avoir un moment succombé à une tentation. À cause d'un péché d'orgueil, on peut connaître. Ou encore parce que nous avons délibérément désobéi à Dieu. Dans ce cas-ci, c'est très clair. L'échec est lié à une désobéissance ou à quelque chose que nous avons fait. Et puis, il y a les échecs qui ne sont pas liés au péché. Et j'en ai cité plusieurs, vous allez comprendre. J'ai étudié sérieusement pour mes examens, et pourtant j'ai raté mon année. J'ai fait correctement mon boulot, et pourtant ma compagnie vient de me licencier. J'ai pris soin de ma santé, et pourtant je me suis quand même chopé cette maladie. Je voulais faire des études dans le domaine du sport, et puis suite à un accident, mon rêve est anéanti. Je suis amoureux de cette fille ou de ce garçon-là, et l'idiot, il ne le voit pas. C'est aussi un échec. Je me suis beaucoup investi dans une amitié avec l'autre, mais l'autre a décidé d'en finir, que ce serait fini. Dans le premier cas, c'est clair que l'échec est dû à un péché. Et dans le deuxième cas qu'on vient de voir, il est aussi clair que l'échec n'est pas dû à un péché, mais simplement au fait que nous sommes des êtres vivants, point barre. Et il n'y a pas de réponse nécessairement à cela. On va tous connaître des échecs. Quelqu'un disait ceci, il n'y a que ceux qui sont déjà morts qui ne connaissent pas d'échec. C'est vrai. Il est bon aussi de se rappeler que Dieu ne donne pas non plus de réponse à tout ce qui va arriver. Dieu ne donne pas non plus de réponse pour tout ce qui va arriver. Mais il y a une chose qu'il a promis, c'est d'être à nos côtés quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une certitude. On n'aura pas de réponse pour tout ce qui va nous arriver, mais cette certitude, on peut l'avoir. Dieu sera à nos côtés quoi qu'il arrive. Alors, avant de voir ensemble comment redécouvrir l'amour de Dieu au travers de nos échecs, je pense que c'est aussi important de rappeler ce qu'est un échec et ce que n'est pas un échec. Parce que quelquefois, le problème, c'est que on a tendance... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'un échec et qu'est-ce que n'est pas un échec? Un échec, ce n'est qu'un moment de notre vie. Ce n'est pas toute notre vie. Et quelquefois, quand on passe par un moment difficile, on a la tendance de voir tout en noir et de se dire c'est terminé. Non, un échec, c'est un moment dans notre vie, mais ce n'est pas toute notre vie. Sous-entendu, il y aura encore de bons moments. Un échec ne veut pas dire que tout est perdu, mais que peut-être nous avons encore des choses à apprendre. C'est souvent le cas. L'échec ne veut pas dire que nous devons tout arrêter, mais que nous avons besoin que Dieu nous montre quelle est la prochaine étape de notre vie. Des fois, quand on est en situation d'échec, on va se dire, oh, j'ai envie d'abandonner, j'ai plus envie de continuer. Non, ça c'est un moment. Il y aura d'autres choses. Et puis, j'étais un peu trop loin là, oui. L'échec ne veut pas dire non plus que Dieu nous a abandonnés, mais peut-être qu'il a un autre plan pour nos vies que celui que nous pensions. Dans ces moments difficiles de la vie, il peut nous arriver d'avoir ces pensées qui nous hantent et qui nous torturent. Des pensées comme... Vont-ils ou va-t-il me pardonner à cause de ce que j'ai fait? Ça vous est déjà arrivé de vous dire ça? Vont-ils ou va-t-il me pardonner à cause de ce que j'ai fait? Ou encore, arriverai-je un jour à me pardonner à cause de l'erreur que j'ai faite? Quelquefois, ce n'est pas simplement le pardon des autres qu'on a besoin, c'est notre propre pardon. On se dit, est-ce que je vais arriver à me pardonner pour ce que j'ai fait? Ou alors, est-ce que Dieu peut encore me sortir d'une situation qui, pour moi, humainement parlant, est perdue. On se pose à un moment ces questions et on est même torturé quelquefois par ces questions. Alors, afin de vous montrer qu'il y a toujours de l'espoir dans les situations difficiles de la vie, j'ai choisi de prendre ce matin un texte qui nous parle de l'apôtre Pierre et qui nous parle du reniement de l'apôtre Pierre. Je pense que ça tombe bien juste après la semaine de Pâques et dans le contexte. On va examiner un petit peu cette période noire de la vie de Pierre où il va renier Jésus et il va connaître, on peut dire cela comme cela, l'échec de sa vie. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Et avant de le lire, j'aimerais nous rappeler le contexte. Comment Pierre en est-il arrivé à renier Jésus? Et on va lire le texte ensemble. Là, j'ai besoin de me décaler. Il y a un reflet. Excusez-moi, je n'ai pas... Donc, chapitre 4 de l'évangile de Marc. Jésus leur dit, vous allez devoir être ébranlés. Vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara, même si tous les autres étaient ébranlés, moi, pas. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. Pierre protesta avec véhémence. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient la même chose. Il est clair que l'apôtre Pierre était un leader dans ce groupe de 12. C'était un meneur, c'était quelqu'un qui aimait aussi son maître. C'était aussi un impulsif, c'était quelqu'un qui démarrait au quart de tour, et dans le prochain texte que l'on verra, on confirmera cela. Mais le grand danger de Pierre, c'était peut-être de croire qu'il était plus fort que les autres, de croire qu'il était peut-être aussi plus solide que les autres, ou de croire tout simplement qu'il était peut-être plus spirituel que les autres. Aujourd'hui, nous savons, nous, que ce que Jésus avait prédit s'est passé, et qu'au travers de cette crise, au travers de cet échec, Pierre va être anéanti et il va prendre conscience de tout le chemin qui lui reste à parcourir. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'échec de sa vie, il ne pensait jamais être tombé aussi bas, et pourtant, à ce moment-là, c'est là qu'il se trouve. Il est au fond du trou, on a envie de dire. Alors comment Jésus va-t-il s'y prendre pour aider Pierre à redécouvrir qu'il l'aime? Et on va lire le chapitre 21, qui est un peu plus long, mais qui est une belle histoire d'amour. Et je me mets sur les côtés. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Et ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, l'impulsif, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, 95 mètres à peu près. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Il leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Comment Jésus va-t-il s'y prendre pour aider Pierre à redécouvrir qu'il est toujours aimé de lui? Parce que une des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu ne prend jamais, mais jamais plaisir à nous voir dans une situation d'échec. Dieu est attristé de cela. Il ne prend jamais plaisir. Et il veut, quelque part, aider Pierre à redécouvrir qu'il est aimé de lui. La première chose que Jésus va faire pour l'aider à redécouvrir qu'il est aimé de lui, c'est de lui dire que Jésus ne l'a pas oublié. Lui dire qu'il n'est pas oublié de Dieu. Comment le savons-nous? En fait, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 7, il y a quelque chose dans ce texte que l'on ne trouve pas dans les autres évangiles, dans les autres récits des évangiles, mais qui est une parole qui a été une source d'encouragement, à mon avis, incroyable pour l'apôtre Pierre à un certain moment de sa vie. Vous allez comprendre. Marc, chapitre 16, verset 7. Rappelez-vous, les femmes sont arrivées au tombeau, il y a un ange, et qu'est-ce que l'ange va dire? Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède, en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Allez dire à ses disciples, et j'aime bien ces petites notes toutes particulières à l'intention de qui? De Pierre. Parce que pour moi, il est assez évident qu'à un certain moment, Pierre a dû se dire « Time ». Et Jésus comprenait très très bien que Pierre devait se trouver, comme on le disait tout à l'heure, vraiment au fond. Et il avait besoin d'une parole d'encouragement. Vous savez, quand quelque part vous avez déçu quelqu'un, une des choses que vous voulez, c'est que la personne vous appelle, vous dise quelque chose. Et c'est le cas ici. Jésus dit au travers de l'ange à cette dame, allez dire aux disciples et à Pierre que je ne l'ai pas oublié. Pierre avait dû prendre du recul parce que bon, quelque part c'était le leader du groupe, c'était un peu sur lui que Jésus avait fondé des espoirs. C'était lui qui était censé diriger, je dirais, l'entreprise, construction de l'église. Et c'est lui qui va se planter devant tout le monde quelque part. La honte. Et j'imagine que Pierre a dû se dire à un moment, ma carrière d'apôtre ici, elle est terminée, je peux retourner à les pêcher. Et du reste, c'est ce qu'il était en train de refaire un petit peu. Certainement qu'il a dû se dire, oh, Jésus va en choisir un autre, meilleur que moi. Vous voyez ce qui est de très encourageant dans ce verset, dans ce petit mot, c'est de découvrir que même lorsque nous sommes au plus bas dans notre vie, et c'est le cas de l'apôtre Pierre, Jésus nous dit, je ne t'ai pas oublié, je sais où tu es, et je sais ce dont tu as besoin, et je peux te donner ce dont tu as besoin pour continuer à vivre. Jésus n'est pas comme un patron de compagnie qui est prêt à nous jeter à tout moment quand on ne correspond plus à ses attentes. Dieu connaît le chemin sur lequel il nous a invités à marcher. Il est passé lui-même par là. il connaît le chemin et il sait que c'est difficile. Il sait que c'est difficile. Et c'est pour cela qu'il a promis d'être aux côtés de Pierre, mais aussi à notre côté. La deuxième chose que Jésus va faire pour montrer à Pierre qu'il l'aime toujours, c'est que il va à la rencontre de Pierre parce qu'il l'aime. Et vous savez, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Des fois, on dit souvent, ouais, je suis revenu à Dieu et compagnie. Ouais, vous êtes revenu à Dieu parce que Dieu était, vous recherchez là où vous étiez. Il ne faut jamais l'oublier. C'est le message de l'Évangile. C'est le fil conducteur de toute la Bible. Dieu est à la rencontre des hommes. Dieu les cherche parce qu'il les aime. Nous sommes tellement aimés de Dieu qu'il va toujours tout faire pour nous retrouver là où nous sommes. Et ce qui est assez frappant dans cette histoire, mes amis, c'est que l'endroit où Jésus va retrouver Pierre, c'est le même endroit, exactement le même endroit où 3 années plus tôt, il l'avait appelé quand il était un pêcheur à ce moment-là. C'est exactement le même endroit où il va aller le retrouver. Et je trouve ça quelque part assez formidable. Même si nous avons déçu Dieu, Dieu reste un père pour nous et il attend avec impatience que nous rentrons à la maison. Quelquefois, nous avons l'impression que nous n'avons plus de maison, mais Dieu s'attend à ce que nous rentrons à la maison. C'est comme dans l'histoire du fils prodigue. On a beau s'être éloigné, Dieu ne nous a pas oubliés et il attend que nous rentrons à la maison. Pierre avait déçu Jésus et pourtant Jésus va le retrouver là où il se trouve. Et vous savez comme moi que dans la vie, on sera tous déçus par quelqu'un. C'est une réalité, mais on va tous aussi décevoir d'autres personnes. Ça va dans les deux sens. Et malheureusement, quand cela nous arrive, on a nous tendance à vouloir couper les ponts avec l'autre. Hein? Quand on est déçu, on dit, ouais, celui-là, plus jamais, je connais maintenant. Hein? Ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus ne nous laisse pas. Au contraire, il revient à notre rencontre. Et je pense qu'il y a ici un encouragement, je veux dire, si nous sommes en froid avec un frère ou une sœur ou un ami qu'on n'a plus vu depuis longtemps, saisissons l'occasion de pouvoir créer un pont pour retrouver une relation avec quelqu'un. La troisième chose que Jésus va faire, il le met au défi d'avoir une confiance totale en lui et non plus en ses propres moyens. Le problème de Pierre est le problème que ceux qui sont appelés à diriger risquent souvent de rencontrer. C'est celui de croire que parce qu'à un certain moment on se trouve dans une certaine position, on n'a plus besoin du conseil des autres. Ou comme dans le cas de Pierre, on se croit au-dessus de la mêlée. Eux peuvent se casser la figure, mais bien sûr, pas moi. Le problème de Pierre, c'est qu'il avait mis trop sa confiance en lui-même et pas assez en Dieu. Et Jésus va lui lancer un nouveau défi. Un petit peu comme il y a 3 ans auparavant, il va lui lancer un défi. À Pierre, qui est un pêcheur, il va lui dire, écoute, jette ton filet de l'autre côté, tu vas voir, ça va marcher. Pierre est un professionnel de la pêche. Et quelque part, il est en train de lui enseigner quelque chose. Fais-moi confiance. Ne fais pas simplement confiance à ce que tu vois avec tes propres yeux. Mais fais confiance à la personne que je suis. C'est pas mal pour quelqu'un qui vient juste de renier il y a quelques instants. Pleinement confiance. À travers cette invitation de jeter son filet, Dieu voulait lui dire, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et Jésus nous dit la même chose ce matin. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous et pour moi. C'est pour ça que Dieu, à certains moments, nous invite à lancer notre filet. On ne sait pas pourquoi toujours, mais Dieu lui sait pourquoi. Autre chose qui est intéressant à noter dans cette situation-ci, les disciples n'ont pas contesté cette invitation. Ils ont obéi directement. Vous savez pourquoi? Quand on prend un gros coup sur la tête, souvent on devient un peu plus vulnérable, un peu plus sensible, un peu plus docile aussi pour obéir. On devient aussi plus maniable. Au travers de leur obéissance, les disciples vont donc découvrir et réapprendre que Dieu les aime et réapprendre à faire confiance à Dieu. Et puis, la quatrième chose que Jésus va faire, il va le rétablir dans sa fonction d'apôtre. Il va le rétablir dans sa fonction d'apôtre. Et regardez avec moi avec quel tact et quelle marque d'affection il va inviter Pierre à reprendre sa fonction d'apôtre. Moi, je trouve ça très touchant, personnellement. Au verset 14, il dit ceci. « Enfant, j'aime le terme enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus n'est pas fâché contre Pierre ni contre ses disciples. Il comprend la situation. Il ne dit pas en rigolant, comme on aurait tendance à le faire, « Eh les gars, c'est pas demain qu'on fera un gros festin avec ce que vous avez péché. Hein. » On aura envie de dire ça, nous. Non, non. Enfant. La deuxième chose qui nous est dit au verset 9, on voit que Jésus avait préparé un feu. Alors certes, c'est important de préparer un feu pour préparer quelque part un petit déjeuner, mais toute l'intention, l'idée de préparer un feu, Jésus savait très très bien qu'ils avaient passé la nuit en mer, il fait cru en mer, il fait humide, ils ont faim, ils ont froid, et le maître, celui qui a été renié par ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un déjeuner. C'est quand même fort ça. C'est quelle marque d'affection, quelle marque d'amour à l'intention de ses disciples. C'est sûr qu'il voulait avoir une discussion assez serrée avec ses disciples, mettre des choses au point. C'était l'intention de Jésus, on le sait. Mais il prépare la chose de manière à bien le faire. C'est aussi une marque d'affection. Des fois, nous, on veut dire un mot à l'autre, on rentre dedans directement, on lui dit, poum, c'est fait. Non, Jésus veut. Il prépare la chose parce qu'il les aime. S'il ne les aimait pas, il n'aurait pas agi de la sorte. Et puis, Jésus va leur préparer un déjeuner. Et ça, je trouve ça franchement remarquable. Vous savez, si on vous avait renié comme Jésus a été renié, est-ce que vous auriez l'intention, vous, de vous dire 3-4 jours après, « Oh, ben, je vais inviter tous mes copains, on va faire un grand barbecue ensemble. » Moi, j'ai l'impression que je n'aurais pas agi comme ça. Si j'avais dit, « Ouais, peut-être je vais faire un barbecue, ok. » Non, non, j'invite tout le monde. Des patates pour tout le monde aujourd'hui. Sans oublier un double sens, tout le monde patate. Ça aurait été moi, quelque part. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus aime ses disciples. Il est vraiment différent de nous. Il a de la compassion. Et Jésus va prendre Pierre à part pour lui poser une question. Or, dans le texte, ça ne ressort pas tellement, mais quand Jésus va parler à Pierre, il nous a dit qu'il va le prendre à part. Et c'est important de relire le texte. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, c'est la suite du texte qu'on a lu, hein. Tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre t'attachera et te mènera où tu ne voudras pas aller. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu après avoir parlé ainsi. Et il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est-à-dire que on peut penser que quand on lit dans les autres évangiles ce texte-là, on a l'impression que Jésus est là et puis qu'il va dire devant tout le monde à Pierre. Non, ici c'est clair. Quand Jésus va dire cela, il est à l'écart avec Pierre. Puisqu'à un moment, Pierre s'est dit, il est puis le disciple que Jésus venir. Quelle attention de la part de Jésus de lui dire des choses très importantes à l'écart du groupe. Pierre a déjà assez dégusté, il n'a pas besoin d'être, dévoilé encore publiquement comme ça. C'est une marque d'amour, une marque d'affection de la part de Christ de le faire. Et il va lui poser la question trois fois. Pierre, m'aimes-tu ? Ce que j'aime bien aussi ici, c'est que Jésus ne profite pas de la situation pour faire la morale à Pierre. Nous, on aurait tendance à vouloir saisir l'occasion. Il ne profite pas de l'occasion pour faire la morale à Pierre. Il veut l'aider à comprendre que pour faire le travail qu'il lui demande de faire, il a besoin de mettre toute sa confiance en lui. Tout le reste est secondaire. La question que Jésus pose, c'est « M'aimes-tu ? » ses qualités de leader, sa fougue, son cœur pour les gens, la formation intensive qu'il vient d'avoir, tout cela n'est que secondaire. Et c'est pour cela que Jésus ne va pas dire à Pierre, « Est-ce que tu es prêt à relever le défi, Pierre ?» Pierre sait qu'il n'est pas prêt à relever le défi. Et Jésus sait qu'il n'est pas prêt à relever le défi. C'est pour ça qu'il ne lui pose pas la question, « Est-ce que tu es prêt à relever le défi ?» La question qu'il lui pose, qui est fondamentale, c'est « M'aimes-tu ?» Ça, c'est la chose la plus importante que Jésus veut entendre. Est-ce que tu m'aimes? Avec ça, tu vas pouvoir continuer parce que je vais pouvoir t'aider. Pierre sait très bien qu'il n'est pas prêt. C'est pour ça qu'il dit, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Et Jésus va lui dire, ok, paie mes brebis et toutes celles que je vais encore te confier. J'aimerais juste conclure. Les amis, on va tous connaître des échecs ou on a tous connu des échecs, mais on va encore en connaître. C'est une réalité, c'est pas ça le problème. La chose, c'est de se rappeler qu'au travers des moments difficiles par lesquels nous passons, Dieu a promis d'être toujours là, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut se servir de ces moments d'échec pour nous apprendre des choses que nous ne pouvons pas apprendre autrement. Il y a des choses que Pierre devait apprendre au travers de son échec. Il ne pouvait pas l'apprendre d'une autre manière. C'était dur, mais il va comprendre des choses fondamentales pour sa vie qui vont complètement le transformer. Et le nouveau Pierre, on le découvre dans les actes, c'est un gars complètement libéré, c'est un gars qui aime le Seigneur et qui va foncer. Donc Dieu se sert des situations d'échec pour nous rappeler une chose, que nous sommes aimés de lui et que nous pouvons continuer aussi avec lui. Alors au travers de nos défaites, n'oublions jamais que ce que Dieu a fait pour Pierre, il peut le faire aussi pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu n'est pas différent. Dieu n'a pas changé. Il nous aime. Il vous aime. Il m'aime. Que Dieu vous bénisse.